avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la pédophilie, le silence et l'église. Il faut se rendre à l'évidence, les abus sexuels sur des enfants ne disparaîtront jamais totalement, mais l'omerta, cette deuxième peine pour les victimes, peut-elle cesser enfin? C'est la question que vous posez dans votre livre. Bonjour Isabelle de Gaulmin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à La Croix, catholique engagée, et vous avez disséqué presque chirurgicalement l'affaire du prêtre de Lyon, comme on dit couramment, Bernard Prenat, accusé de viol et agression sexuelle sur des enfants scouts il y a plus de 25 ans, au moins 65 victimes présumées, âgées à l'époque de 8 à 15 ans, le plus grand scandale pédophile dans l'Église française jamais connu et qui fera l'objet d'un procès public en cour d'assises, on le sait maintenant. Vous avez grandi vous-même à Lyon et vous avez vous-même séjourné dans ces camps de vacances avec le père Bernard Prenat, qui ne s'en prenait qu'à de petits garçons, il faut bien le préciser. Pourquoi, comment s'est construite cette tombe qui a enseveli les victimes dans des dommages psychologiques irréversibles? Au-delà de l'Église aussi, nos sociétés peuvent-elles, dans les années à venir, se libérer de ces tabous pour permettre la sanction judiciaire et la réparation? Martine Brousse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association La Voix de l'Enfant, une association qui est particulièrement active dans de nombreux procès de maltraitance à l'égard d'enfants et donc de pédophilie. Et quant à vous, les voisins, que vous inspirent les abus sexuels et les crimes pédophiles dans votre pays? Comment libérer la parole, faire en sorte que la peur change de camp? Vous pouvez nous appeler dès maintenant, surtout n'attendez pas la fin de l'émission, au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis en fin d'émission, on donnera la parole à l'association L'Enfant Bleu qui publie un livre blanc avec 20 propositions pour renforcer la protection des enfants victimes de maltraitance à quelques jours de la Journée internationale des droits de l'enfant. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux, évidemment, car ce genre de sujet fait couler de l'encre. Hyacinthe à Cotonou, au Bénin, nous dit « Ces scandales n'arrivent pas seulement dans l'Église catholique. Il y aura toujours des brebis galeuses qui saliront l'Église. C'est pourquoi moi, je souhaite, nous dit Hyacinthe, que des sanctions très sévères soient prises contre ces prêtres. Et je souhaite aussi que l'Église assouplisse un peu la loi sur le célibat des prêtres et des sœurs. » Filston à Yaoundé, au Cameroun, écrit ceci « Les hommes d'Église chez nous ne sont pas punis. Personne n'ose se prononcer et les dénoncer, alors qu'on est tous au courant de cette situation. » Nicole, à Douala, également au Cameroun. Chez nous, on connaît tous un pasteur qui a mis enceinte une fille et sa mère. Comme c'est un homme d'église, les femmes le défendent et pensent que c'est la volonté de Dieu. Ou encore Mamadou, à Dakar, au Sénégal. Il nous dit qu'au Sénégal, ceux qui sont censés donner une bonne éducation religieuse sont ceux qui violent les enfants. Bon, peut-être pas non plus généralisé, mais vous voyez, ces témoignages disent beaucoup de choses. Vous pouvez bien sûr nous appeler de vive voix. On a envie de vous entendre pour dialoguer en direct avec nos invités. 33 1 84 22 71 71.
Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'église l'ont appris et n'ont rien fait. On n'a jamais mobilisé de ressources d'investigation à long terme sur cette affaire.
Non, jamais.
Et c'est le genre de choses que votre équipe ferait?
Spotlight?
L'église jettera toutes ses forces dans la bataille.
J'aurais besoin d'informations complémentaires.
Je ne veux aucune trace de cet entretien. Pas de notes, rien.
D'après nos infos, vous avez négocié plusieurs affaires avec l'église.
Je suis tenu au secret.
Pour un petit garçon pauvre qui grandit à Boston, quand un prêtre fait attention à vous, c'est pas rien. C'est difficile de dire non à Dieu.
Ils tenteront de faire taire tous ceux qui parlent.
Laissez-moi tranquille, nom de Dieu!
6% passe à l'acte.
6%, ça fait 90 prêtres.
Si on avait autant de ces enfoirés, vous pensez bien que ça se saurait.
Peut-être que ça se sait.
Voilà, vous venez d'entendre la bande-annonce du film Spotlight qui est sorti en janvier 2016, une fiction adaptée de faits réels à Boston aux États-Unis, un scandale qui a secoué donc également l'Église catholique. Isabelle de Gaulmin veut publier une enquête, Histoire d'un silence, pédophilie à Lyon, une catholique raconte. Pourquoi vous, journaliste catholique engagé, vous avez choisi d'écrire sur ce sujet forcément douloureux pour vous qui avez grandi à Lyon ?
Finalement, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que j'étais moi-même scout dans cette troupe. C'était jusqu'à il y a un an, je pouvais dire que c'était parmi mes meilleurs souvenirs de petite fille. Donc j'ai beaucoup aimé. J'étais 4 ans, je me suis beaucoup investie comme cisnière, enfin tout ce scoutisme-là. Et en fin de compte, j'en ai parlé au cardinal Barbarin, donc dans les années 2005. pour lui dire, écoutez, il y a des rumeurs sur ce prêtre, etc. Et j'étais, comme tous les habitants de cette commune de Lyon, hein, c'est une petite commune qui est à l'ouest de Lyon, Sainte-Foy-les-Lyons, j'étais en fait plus ou moins au courant. C'est-à-dire qu'on savait que, voilà, il tripotait, on savait qu'il y avait des choses qui s'étaient passées. Moi, mes trois frères étaient...
Le père Prénat.
Sur le père Prénat. Et quand j'ai vu en 2015 qu'il n'était toujours pas en prison, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai rien dit? Pourquoi est-ce que moi-même, comme journaliste, comme catholique, j'aurais pu être la première à dire quelque chose et je n'ai rien dit, parce qu'un prêtre m'en avait parlé, etc. Donc voilà, c'est d'abord quelque chose que j'ai eu cette nécessité de comprendre mon propre silence à moi. Et en essayant de comprendre mon propre silence à moi, j'ai vu qu'en fait, on était tous pareils, que personne n'avait rien dit, qu'il y avait une espèce de bloc de silence dans toute cette commune, à la fois des parents, des prêtres, voilà, de tous les gens qui auraient pu parler. Et c'est ça que j'essayais de comprendre.
Même si vous avez interrogé le cardinal Barbarin, il y a quelques années d'ailleurs sur le sujet, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, mis en cause pour non-dénonciation et mise en danger de la vie d'autrui, la plainte a été classée sans suite en août dernier. Les agressions sexuelles sur des enfants peuvent toucher toutes les institutions, hein, après l'environnement familial, parce qu'on le sait aussi, les agressions sexuelles se font d'abord dans l'environnement familial proche. Quelle est la spécificité finalement du scandale dans l'Église ?
D'abord, il y a une spécificité morale, c'est-à-dire que le prêtre, il y a quand même dans l'évangile assez clairement, Jésus dit tout ce que vous ferez à ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Donc il y a quand même quelque chose de il est complètement contraire aux propres valeurs qu'il va défendre. Donc il y a ça. Ensuite, il y a effectivement l'autorité du prêtre qui est à la fois une autorité finalement d'animateur, d'enseignant, mais aussi une autorité spirituelle. Et c'est ce que disent assez bien les victimes, c'est-à-dire que du coup, ils pouvaient rien dire parce qu'ils étaient devant quelqu'un qui représentait tout ce qu'on leur disait, auquel il fallait croire, quoi. Donc il y avait à la fois la messe, et puis après il y avait ce type-là, et du coup dans leur tête les choses faisaient se confondaient. Donc je pense qu'il y a effectivement un type d'autorité, et puis en plus il y a une forme de complicité avec la famille, c'est-à-dire que ce prêtre-là a la plupart du temps choisi ses victimes dans les familles où il était invité le dimanche. C'est ça qui est très curieux, qui est très dur. Comme s'il avait su que dans ces familles-là en particulier, les enfants ne diraient rien parce que lui-même était très proche des parents. Donc on est presque dans l'inceste.
Il y avait
une
immense confiance, oui. Martine Brousse.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est justement une des grandes difficultés des révélations de ces situations absolument dramatiques, hein, qui font que tout enfant qui est dans toutes les affaires, hein, d'agression sexuelle, qu'elles soient intrafamiliales, donc quand même il faut rappeler que entre 60 et 80% sont intrafamiliales. Mais c'est là où c'est intéressant, et comme le dit Isabelle Goldman, c'est vraiment presque incestueux, hein, parce que tous ces prêtres, hein, qui sont mis en cause dans des affaires de pédophilie font partie de la famille. Hein. C'est vraiment comme un oncle qui est là, qui vient, qu'on invite à la table. Comment un enfant peut-il dénoncer, même envoyer des clignotants en disant « mais c'est pas possible, il sait qu'il ne sera pas cru, donc il est doublement, triplement victime ».
Olivier, une des victimes dans votre livre, dit Isabelle de Gaulmin, « c'est sûr que s'il n'avait pas été prêtre, Bernard Prénat n'aurait jamais pu sévir aussi longtemps ».
Oui, parce que c'est ça qui est étonnant, c'est quand même qu'il est resté 20 ans à la tête de ce mouvement scout de 400 gamins. Le curé savait très bien ce qu'il en était en réalité, celui qui s'occupait de lui. Il y avait eu déjà des premiers signes, même dès le séminaire. Ensuite, il y a eu une première plainte en 82. Donc, franchement, c'est dans n'importe quelle autre institution, je pense qu'il ne serait pas resté comme ça 20 ans sans jamais bouger, alors que normalement, un prêtre, ça bouge tous les 4-5 ans. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas bougé, lui? Comment il a fait
pour le bouger? Il est muté en 91, et d'ailleurs, il crie à la punition, tout en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, notamment sur dénonciation de parents. Hein,
il n'a jamais nié, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'a jamais nié. Enfin, on savait tout.
Tout en disant qu'il est victime.
Alors oui, il dit « j'ai été ébouillanté », et ça, c'est très souvent, je crois, sur les personnalités pédophiles. C'est-à-dire qu'ils se prennent comme victimes, ils se victimisent eux-mêmes. Et du coup, les enfants se sentent coupables parce que c'est eux qui vont lui faire du mal. Et c'est vraiment un système complètement pervers.
Alors, vous êtes partie à la recherche des victimes. Vous écrivez, Isabelle de Gaulmin, qu'on ne peut rien comprendre au problème de la pédophilie dans l'Église si on n'écoute pas d'abord la parole des victimes. Sans voyeurisme, évidemment, vous racontez l'histoire de Laurent, 47 ans, ancien scout du groupe Saint-Luc. Il raconte, lui, comment il débranche son cerveau littéralement pendant les assauts du prêtre, quand le prêtre lui demande de le suivre au premier étage, dédoublement complet de sa personnalité. personnalité. Bertrand aussi, qui dit on avait tous notre poignard à la ceinture, parce que quand on est scout, on porte un couteau, et qui ne comprend pas pourquoi il n'a jamais tenté de se défendre. Christian, 11 ans lors du premier viol. Presque tous, finalement, sont persuadés d'être seuls dans leur malheur.
En fait, ça a été ça le déclenchement, c'est quand ils ont découvert qu'ils étaient très nombreux. Et ça, c'était il y a juste un an, grâce au site qu'ils ont créé, etc.
La parole libérée.
Ils pensaient être 2-3 dans ce cas-là, mais pas plus. Donc c'est vrai qu'ils pensaient être seuls. Et de fait, à chaque fois, le père Bernard Prénat avait une espèce de relation intime avec là, en lui faisant croire tu es le seul, tu es mon préféré. Et quand on est mon préféré de quelqu'un qui est un peu le gourou, hein, parce que c'est ça, c'était quand même un gourou comme une secte, qui est un peu le gourou de tous les gamins, bah, quelque part, il y a comme une responsabilité sur soi, quoi. C'est ça qui est compliqué. Et c'est vrai que c'est... Enfin, je crois que le problème de l'Église, justement, ça a été de ne pas écouter les victimes. Quand il y a eu les premières affaires en France, en 2000, les évêques se sont préoccupés de leurs prêtres en disant oh, « c'est très grave, il faut faire attention, etc. » Ils n'ont jamais été voir les victimes. Et ils n'ont pas compris non plus que des victimes d'il y a 20 ans ou 30 ans, la douleur, elle restait, elle continuait et elle continuait à faire mal, quoi. Et moi, je me souviens très bien, parce que j'ai accompagné Benoît XVI comme journaliste en 2008, quand il est allé aux États-Unis. Pour la première fois, le pape recevait des victimes. Et Benoît XVI, à ce moment-là, a pleuré. C'était aux États-Unis. Et il y avait encore des évêques aux États-Unis qui refusaient de voir les victimes, ce qui paraît complètement aberrant, quoi.
Le silence et l'ignorance, ça va de pair ou pas pour vous, Martine Brousse? Parce que si on n'écoute pas les victimes, si on n'entend pas les détails sordides, si on n'entend pas ce qu'il reste du passé, les douleurs aussi...
Je ne parlerai pas d'ignorant, je parlerai de déni. Du déni de la souffrance des victimes, que ce soit au sein de l'Église, que ce soit au sein d'autres institutions, éducation nationale, établissement de centres d'accueil, l'aide sociale à l'enfance, on ne veut pas savoir. Et c'est vrai que pour les différentes affaires dans lesquelles la voix de l'enfant a été partie civile, que c'était l'affaire Bisset et Monseigneur Piquant, que c'était l'affaire Lefort...
Qui a été condamné d'ailleurs.
Qui a été condamné, l'évêque a été condamné.
3 mois de prison avec sursis.
L'affaire Bisset, l'affaire Lefort qui a été... Mais nous nous sommes heurtés à l'Église. Nous n'avons eu aucune, mais même pas d'empathie pour les victimes. Nous osions mettre en cause cette Église sainte au plus haut niveau. Et ce que je me dis là, ce qui est nouveau, et merci pour cet ouvrage, parce que je pense qu'il est un véritable éclairage, d'abord pour l'Église, mais aussi pour les grands publics, et puis pour vos auditeurs, parce que c'est un livre qui est accessible, j'ai envie de dire, à tous, parce qu'il permet de comprendre la souffrance de ces victimes. Et je me souviens d'une victime qui avait dit un jour « Même si on vit, on est mort du dedans. » Parce que ce sont aujourd'hui des victimes. C'est terrible de se dire qu'on a été souillé, qu'on a été agressé par quelqu'un en qui on avait mis toute sa confiance et dont les parents ont mis aussi toute leur confiance.
Les victimes vous racontent comment, des dizaines d'années après, cela modifie les relations de couple, comment ça, c'est un poison de l'intérieur, c'est le mot que vous employez dans les témoignages, qui s'insinue aussi dans les relations avec ses propres enfants, une fois qu'on a fondé une famille.
Les relations avec le conjoint et avec les enfants. Et d'ailleurs, dans les victimes que j'ai fait parler, la plupart avaient coupé les liens avec leurs propres parents. C'est-à-dire que le poison a détruit tout le système familial. Parce que quand elles ont commencé à parler, les parents se sont sentis coupables, coupables de ne rien avoir vu, etc. Donc la plupart ont continué à nier. Par exemple, je raconte ce fameux Laurent. Il a 18-19 ans, il a sa première petite copine officielle. Sa mère lui dit « Attention, Laurent, ne fais pas n'importe quoi. » Et il lui crie carrément, lui dit « Mais enfin, maman, tu sais bien que c'est le père Bernard qui m'a initié quand j'avais 8 ans. » Et là, la mère réfléchit 2 secondes et dit « N'en parle pas à ton père. » Et voilà. Et
sous-entendu quoi ? Sous-entendu, elle savait ? Sous-entendu, elle avait compris ?
Sous-entendu, elle avait compris. Sous-entendu, n'en parlons pas parce que c'est honteux. Il ne faut surtout pas en parler. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est vraiment la double peine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas arriver à en parler. On ne les croit pas dans leur famille. Et de fait, après, alors, c'est pareil. Il y a les problèmes de... On pense beaucoup, et ça, je trouve que c'est vraiment une idée à tordre. On pense beaucoup que quelqu'un qui a subi un pédophile quand il était petit, va devenir pédophile. Et donc, eux, par exemple, une des victimes qui est divorcée, son ex-femme a utilisé ça comme argument en disant attention, mon mari n'est pas sûr. Donc, il reste aux yeux des autres, finalement, des gens qui sont instables, déséquilibrés sexuellement. Et ça, c'est quand même incroyable. Donc, la force de l'association qui a donc témoigné à propos de l'affaire Prénat, c'est pour une peut-être la première fois, enfin c'est assez rare, les victimes ont témoigné à visage découvert en disant « ben voilà, moi je m'appelle un tel, j'ai tant d'enfants, j'ai telle situation et j'ai été victime ». Donc sans avoir honte. Et je crois que c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est que les victimes ne doivent pas avoir honte.
Et je vais tout à fait dans ce sens-là. On a cette chance, nous, à la Voix de l'Enfant, d'avoir le docteur Bernard Cordier, qui est un des experts des délinquants sexuels. Et il dit haut et fort, et c'est, nous le soutenons, la plupart des auteurs délinquants sexuels n'ont pas été victimes dans leur enfance. Hein, c'est un argument des avocats de la défense. Hein, mais vraiment, il faut rassurer tous ces jeunes, tous ces pères de famille qui, voilà, il y a pas de risque, ça se transmet pas. Enfin bon, voilà. Par contre, ce qui est important, c'est la prise en charge psychologique pour que justement ils arrivent à dépasser ce qui leur est arrivé.
Alors il y a quand même deux questionnements qui reviennent en permanence dans votre enquête, hein, Isabelle de Gaulmin. C'est quand même d'abord pourquoi ces enfants ne se sont jamais révoltés, jamais défendus, pourquoi ils ont si rarement parler à leurs parents et pourquoi le clergé, l'évêché, a toujours protégé le prêtre en le déplaçant notamment dans d'autres paroisses. Alors peut-être d'abord sur ses enfants.
Bah oui, moi très naïvement, c'est ce que je comprenais pas en fait. Et je leur ai dit, mais enfin, pourquoi vous n'avez rien dit ? Donc j'ai essayé de comprendre ça. Et effectivement, ce qu'ils disent, ils ont été dans un état de sidération. C'est-à-dire que c'était un peu un autre qu'eux qui était agressé. Comme s'il y avait, ils étaient deux. Et au moment de l'agression, ils oubliaient l'autre. Et donc, c'est resté vraiment très enfoui en eux. Et beaucoup ne l'ont dit qu'il y a à peine plus d'un an. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est resté profondément en eux, qui était là, qu'ils savaient. Mais c'est comme si c'était un autre...
Par peur aussi de la culpabilité qui forcément arriverait chez les parents n'ayant pas été capables de protéger leurs enfants.
Oui, par peur. Et puis peut-être parce que c'est tellement inouï, c'est tellement impossible... que c'est comme si eux-mêmes ne le croyaient pas vraiment. Et puis effectivement, après, il y en a un qui m'a dit ça, il m'a dit « mais comment je pouvais le dire alors que tout le monde l'encensait ?» Comme gamin, c'est vrai que toute la communauté, toute la paroisse était autour. Et on fait souvent, quand on parle aux enfants, on dit attention aux adultes qui peuvent être dangereux, qui sont seuls avec un grand imperméable et tout ça. Mais c'est pas ça. Là, c'est un adulte qui était adulé par tout le monde, qui était au milieu de tout le monde. C'est pas quelqu'un qui était dans une forêt tout seul et qui attirait les petits-enfants. Non, il était au centre de leur vie. C'est ça qui est grave.
Néanmoins, le père Prénat, on a les premières accusations dès 1982. Comment se fait-il que les familles, en tout cas celles qui disent qu'il y a un problème, ne saisissent jamais la justice, mais se contentent d'écrire à la hiérarchie ecclésiastique.
Oui, alors en fait,
on est à la fin des années 80, les années 90, ouais. On savait que la justice existait tout de même en France.
Je pense qu'il y a la peur du scandale. Je pense que, parce que moi, j'ai rencontré d'autres cas à Paris, hein, de parents qui n'avaient pas voulu aller devant la justice parce qu'ils ont peur du scandale, ils ont peur pour leurs enfants. Je crois qu'il y a d'abord la peur du scandale. En plus, là, on est dans un milieu assez bourgeois. Hein. Et puis, l'évêque avait dit, mais vous inquiétez pas, il ne sera pas remis avec d'autres enfants, etc. Donc, les parents ont estimé qu'ils étaient rassurés. Puis, ils ont eu sans doute le sentiment qu'il n'y avait que leur fils.
Ça, c'est la promesse qu'on a faite aux parents.
Aux parents de François, oui.
C'est ça.
Qui est complètement fausse, puisqu'après, on l'a remis dans une paroisse.
En 91.
Jusqu'à il y a un an, il s'occupait d'enfants. Donc, voilà. Donc, il y a ce côté, je pense que les parents eux-mêmes, en tout cas à l'époque, finalement minimisaient l'acte pédophile.
Alors, vous dites
pédophile.
À l'époque, aujourd'hui, ça pourrait continuer, ça continue, c'est toujours comme ça, cette peur du scandale, cette peur aussi pour les parents de déclencher un tsunami.
Oui. Moi, malheureusement, encore aujourd'hui, il faut se dire que... Nous ne sommes pas à l'abri de telles affaires. Nous le voyons au niveau de l'éducation nationale. Nous le voyons dans d'autres institutions. Et c'est vrai que les familles ont peur. Ont peur, comme vous l'avez souligné, du scandale, du regard...
Ou du traumatisme d'un procès
aussi
pour un
enfant. Autres, et puis de la culpabilité. Faire cette démarche et reconnaître qu'en tant que parent, on n'a pas compris ce que nous disait son enfant. On n'a pas accepté même de ce qui... Et on est toujours dans cette notion de déni. Il vaut mieux pas voir. Et puis si ça sort, ben on va faire face. Et puis tant mieux si ça sort pas.
Martine Brousse, de La Voix de l'Enfant, Isabelle Gaulmin, journaliste. Vous restez avec nous. Comment libérer la parole et surtout permettre à la société d'ouvrir ses oreilles et d'agir? Dans les cas de pédophilie, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, deuxième partie, la pédophilie, le silence et l'Église, et bien au-delà, la responsabilité des sociétés face aux agressions sexuelles d'enfants. On en discute avec vous, Isabelle de Golemin. Vous publiez « Histoire d'un silence » aux éditions du Seuil, « Pédophilie à Lyon, une catholique raconte ». Martine Brousse, vous êtes présidente de l'association La Voix de l'Enfant, partie civile d'ailleurs dans le procès qui s'ouvrira, on n'a pas de date encore, contre le père Prénat, accusé donc de viol, d'agression sexuelle et de corruption sur mineurs. Comment libérer la parole et responsabiliser les adultes à ouvrir les yeux? Que peut-on attendre aussi des procès qui ont déjà eu lieu? Les institutions religieuses peuvent-elles bouger, faire preuve de courage face à la vérité? Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 hein, 84 22 71 71. On a des messages intéressants. Marlène Aloubumbashi en République démocratique du Congo écrit sur Facebook: il faut parler de ce genre de thème, mais surtout trouver des solutions après toutes ces discussions. Tony à Kinshasa nous dit: l'Église doit laisser ses prêtres libres de se marier pour que cette situation s'arrête. Je vais vous laisser réagir, bien sûr. Inès à Cotonou, au Bénin, nous dit: moi, je ne crois pas qu'autoriser le mariage des prêtres soit un palliatif. Marc Dutroux, tristement célèbre pédophile belge, avait une épouse, mais cela ne l'a pas empêché de se satisfaire sur des enfants. Voilà, je vous redonne le numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Sur le mariage des prêtres et sur, vous vous interrogez dans votre enquête, Isabelle de Golemin, là-dessus, et plus largement sur la formation des prêtres. Qu'est-ce qui fait que des prêtres se retrouvent dans cette misère sexuelle-là pour devenir un agresseur d'enfants?
Oui, alors de fait, il faut faire attention, c'est pas le célibat directement, à mon avis, hein, qui est en cause, mais c'est plutôt de se demander pourquoi des gens choisissent le célibat. Et est-ce que le choix du célibat est un bon choix? C'est là où, à mon avis, dans les séminaires, il faut faire attention à bien voir que les gens ne choisissent pas le célibat pour des mauvaises raisons, mais pour des bonnes raisons. Et c'est vrai que c'est très, très dur à distinguer. Et puis, il y a aussi, je pense, dans la formation, ce dont on ne parle pas beaucoup, et je pense qu'en Afrique, ça peut être très vrai, c'est le problème du pouvoir. À partir du moment où vous avez du pouvoir, il y a danger. Comment est-ce qu'on exerce le pouvoir dans l'Église? Est-ce que le prêtre, c'est un espèce de grand chef à qui on doit obéir sans rien dire? Du coup, comment est-ce qu'il va exercer son pouvoir sur les enfants, sur les femmes aussi, sur les religieuses? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi de prêtres avec des religieuses. Donc, à partir du moment où on confond, comment dire, dans l'Église, une espèce de pouvoir hiérarchique à ce qui devrait être une forme de pouvoir évangélique qui est autre chose, c'est ça le problème. Donc, aider le séminaire, faire réfléchir aux prêtres en disant: attention, ça ne veut pas dire que vous êtes des grands chefs. Vous êtes là pour transmettre l'Évangile, vous n'êtes pas là pour exercer un pouvoir hiérarchique sur les gens.
Le pouvoir est l'ascendant. Il y a un prêtre qui vous dit dans votre enquête, il y a deux sujets jamais abordés au séminaire, c'est le sexe et l'argent.
Oui, et je pense que ça va ensemble. Parce qu'effectivement,
encore aujourd'hui,
alors pas en France, hein, mais on sait très bien qu'il y a un certain nombre de pays où être prêtre est quand même une manière de promotion sociale. Donc c'est à la fois avoir du pouvoir et à la fois avoir de l'argent.
Martine Brousse, depuis 2000, l'Église bouge très nettement. D'abord parce qu'il y a eu des procès. Il y a eu un prêtre en cour d'assises qui a été condamné à 18 ans de réclusion pour viol et atteinte sexuelle et corruption sur 11 mineurs. D'ailleurs, l'évêque qui était au-dessus de lui a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des faits. Vous êtes partie civile donc dans le procès qui concernera le père Prénat. Comment vous vous situez, notamment par rapport au cardinal Barbarin qui a muté le père Prénat en 91 alors qu'il était au courant de ce qui se...
Non, c'est pas le cardinal, là c'est le cardinal de Courtrai. Oui.
Exact.
Barbarin, en quelque sorte,
est arrivé ensuite
de cette situation.
À l'époque, c'était le cardinal de Courtrai, vous avez tout à fait raison, merci de me reprendre. Il faut dire que cette enquête porte sur plusieurs dizaines d'années. Hein. C'est ça aussi, toute
c'est
la complexité.
C'est la difficulté. Ouais.
Et donc, c'est toute une institution qui a couvert tout de même, tout en sachant, en connaissant une partie des faits.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle connaissait? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas cherché à connaître plus.
Oui,
c'est ça le problème. Ils savaient qu'il y avait des choses et ils n'ont pas sérieusement, et même le cardinal Barbarin n'a jamais envoyé un psychiatre ou des gens un peu...
Il n'y a pas eu d'enquête interne.
Il n'y a pas eu d'enquête interne. Puis il s'est fié à son propre instinct, ce qui quelque part ne va pas.
Pensant qu'il ne recommencerait pas, en fait. Il y avait sans doute eu des choses, mais voilà. Et donc la Voix de l'Enfant a fait le choix, pour le moment, de ne pas prendre position par rapport au cardinal, souhaitant aller jusqu'au bout dans le procès pour connaître la réalité des choses. Parce que très souvent, il y a toute l'instruction, il y a l'enquête préliminaire, il y a l'instruction, il y a des choses qui se disent, mais le procès est un moment tout à fait particulier où il peut se révéler d'autres choses. Et nous avons souhaité attendre ce procès. Et à ce moment-là, s'il nous semble qu'il y a une responsabilité du cardinal, nous prendrons, comme nous l'avons toujours fait...
Sous-entendu, chaque chose en son temps, finalement.
Exactement. Je pense que là, j'aurais envie de dire, il y a une erreur un petit peu, c'est qu'on a plus parlé du cardinal Barbarin qu'on a parlé de l'auteur. Et je trouve que quelque part, pour les victimes, c'était déplacer le problème. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme on s'adresse à un certain nombre de vos auditeurs qui sont dans des pays, il y a aussi des prêtres français qui sont dans ces pays. On a eu quelques affaires de prêtres français qui sont rendus coupables. Il faut que tous les pays d'Afrique et d'Asie sachent qu'on a une législation en France qui permet de poursuivre un Français qui se rend coupable à l'étranger, qu'il soit prêtre, qu'il soit dans une ambassade, qu'il soit enseignant ou qu'il soit simple touriste, il peut être poursuivi, de retour en France.
De quelle manière, dans ces cas-là, peuvent procéder les citoyens à l'étranger ?
Alors, les citoyens à l'étranger peuvent saisir des associations. Nous avons un certain nombre d'affaires aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y en a très peu. On a eu des affaires au Cambodge, on a eu des affaires au Sénégal, on a eu des affaires soit de responsables associatifs, soit de prêtres, soit... Mais les populations, là aussi, n'osent pas parler. Mais quand vous pensez que chez nous, on n'ose pas parler, c'est vrai que là-bas, oser mettre un prêtre, un éducateur, un enseignant français, c'est... C'est pas possible, c'est presque... Donc il faut libérer là aussi la parole, parce qu'il faut protéger ses enfants, comme dans l'affaire du Centrafrique avec l'armée. Il y a une instruction, mais nous irons jusqu'au bout, parce qu'il faut que toute la lumière soit faite. Nous ne pouvons pas accepter...
Vous êtes partie civile contre l'armée française ?
Contre l'armée française. Et il ne faut pas qu'il y ait des déplacements. Où vont aujourd'hui les pédophiles ? Dès qu'ils savent qu'il y a une législation un peu dure dans notre pays, ils vont chercher des endroits, des pays où il y a des enfants, et ils vont partir à l'étranger. Nous en avons dans nos associations, nous sommes très vigilants.
Isabelle de Golemin, vous dites quand même que depuis 2000, c'est-à-dire depuis 15 ans, maintenant plus de 15 ans, ça bouge beaucoup dans l'Église, que l'Église demande pardon officiellement, que l'Église dit à partir de maintenant, en tout cas il y a une réunion à Lourdes que vous citez en 2000, et qui dit en gros, à partir de maintenant tout va changer, mais on ne revient pas sur le passé.
Oui, c'est ça. Je pense
que c'est paradoxal.
L'Église s'est trompée parce que en 2000, elle a dit bon, à l'avenir, on fait attention, on saisit la justice tout de suite. Bon, tout le monde ne le fait pas cependant, mais surtout, elle n'a pas essayé d'aller voir ce qui s'était passé avant. Et elle a toujours considéré que finalement, les victimes étaient peu importantes. C'est exactement ce que disait Martine. Elle a toujours considéré que les victimes étaient contre elle. Là, dans le diocèse de Lyon, c'est ce qui s'est passé. La plupart des victimes sont des catholiques baptisés, etc., puisqu'ils étaient anciens scouts. Et ben, le diocèse de Lyon a d'abord dit « Ah là là, ils sont anti-cathos, ils veulent
détruire
l'Église,
etc. » Alors que la plupart des victimes n'ont pas renié leur foi, d'ailleurs.
Non, il y en a même qui sont pratiquants, etc. Donc, cette association, alors, elle aurait dû être dans l'Église.
Pourquoi le site internet La Parole Libérée, fondé par des victimes, entre autres, et d'autres enfants qui étaient dans ces camps de scouts, qui n'étaient pas victimes, mais qui tout d'un coup se sont sentis une responsabilité. Pourquoi ça tourne au pugilat aujourd'hui ?
Ça ne tourne pas au pugilat, parce qu'ils font quand même attention.
Ça a tourné il y a quelques mois au pugilat.
Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont été très fortement agressés par le diocèse. Il y a même l'avocat du cardinal qui les a traités de collabos. Enfin, il faut voir, c'était quand même très, très dur. De fait, il y a des gens qui les ont accusés, finalement, d'être genre francs-maçons. Vous savez, c'est toujours les complots, le complot contre l'Église, etc. Et c'est pour ça. Donc, eux, ils font quand même attention. Ils font très attention au niveau juridique aussi, à ne pas faire n'importe quoi. Ils ont été assaillis par les demandes. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils ont eu un nombre de témoignages bien en dehors de Lyon. Pas forcément des gens agressés par des prêtres, des gens souvent très âgés, qui leur disaient « Enfin, il y a un lieu où on peut m'écouter », qui commençaient à témoigner. Donc, ils ont été un peu ensevelis, on va dire, par tous ces témoignages. Donc, il a fallu qu'ils s'organisent. Eux, ce n'est pas des professionnels. Ils ne sont pas forcément, d'ailleurs, psychologiquement préparés à ce genre de choses. Donc, c'est ça qui a été compliqué. Mais moi, ce que je regrette, c'est que cette association, elle n'ait pas été créée, elle n'ait pas été dans le diocèse. Je veux dire, c'est quand même des gens...
Soutenue, ou au moins soutenue par l'Église.
Soutenue par l'Église. C'est quand même des gens, moi, comme catholique, c'est quand même ce père Prénat, c'est quelqu'un qui salit l'Église. Donc, comme catholique, moi, je lui en veux beaucoup.
Il bénéficie d'un avocat à l'heure actuelle qui est payé par l'Église.
Qui est payé par l'Église. De toute façon, comme prêtre, il est payé par l'Église. Il est toujours prêtre. Ça, c'est quelque chose aussi que je ne comprends
justement,
pas.
Justement, où vit-il ?
Il vit, on ne sait pas bien, dans un appartement du diocèse de Lyon. Bon, ça, à la limite, on peut comprendre. comment dire, les gens chargés de l'enquête juridique n'ayant pas estimé qu'il était assez dangereux pour le mettre en prison préventive, ça je comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas d'enquête canonique, c'est qu'il n'y a pas de procès canonique qui ait lieu. Alors, le cardinal dit, mais je veux d'abord que le procès judiciaire civil ait lieu. Mais là, bon, je veux dire, en plus, il a toujours tout reconnu. Il pouvait y avoir une enquête canonique, on pouvait le destituer. Il ne devrait plus être prêtre, cette personne-là. Enfin, je ne comprends pas ce qu'il fait comme prêtre toujours. Ce n'est pas normal.
Donc, il y aura bien un procès en cour d'assises pour cet homme qui est âgé aujourd'hui.
Oui, il a 75 ans. Ouais.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du prêtre le mois dernier. Donc, et parce qu'en fait, la justice estime que les faits perpétrés il y a plus de 25 ans ne sont pas prescrits.
Voilà, tous les faits ne sont pas prescrits. En fait, ce qui est triste, moi, c'est ça qui m'a un peu rongée, c'est que j'aurais fait ce livre, ou en tout cas, j'aurais été plus active en 2005, au moment où un prêtre m'en a parlé assez sérieusement. Rien n'était prescrit. Donc en fait,
vous en voulez ?
Ah oui, moi je m'en veux. C'est pour ça que
d'avoir écrit 10 ans trop tard.
Je m'en veux de pas avoir été plus vigilante, mais parce que pour moi la pédophilie c'était quelque chose de théorique. C'était mal, mais c'était théorique. Et c'est quand j'ai, parce que c'est mes propres amis qui ont été aussi concernés, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais Isabelle, tu sais que moi j'ai été agressée par ce prêtre. Et là, ça s'est effondré chez moi. Je me suis dit, mais en fait, quand ils ont commencé à me raconter ce que c'était pour eux, j'ai compris. C'est pour ça que je me mets vraiment dans les coupables de cette histoire.
Le problème n'est pas incarné, en fait.
C'est pas incarné, on n'écoute pas assez les victimes. Moi, je pense que vraiment, les choses sont parties de là. C'est qu'on n'a pas pris au sérieux les victimes. On dit, oui, bon, ben voilà, ils exagèrent.
Pourquoi le cardinal Barbarin ne soutient pas les victimes aujourd'hui ? En tout cas, c'est ce qu'elles disent.
Oui, alors, il les soutient ponctuellement. Il ne les soutient pas comme association. Je pense que dès le début, l'histoire a été mal emmanchée. Dès le début, il a expliqué que lui avait fait ce qu'il fallait, parce qu'en fait, il n'a pas pris, et il le dit d'ailleurs aujourd'hui, hein, il n'a pas pris la mesure de la souffrance des victimes. Parce qu'il a vu en face de lui des gens qui étaient plutôt bien, qui sont dans des situations, qui sont avocats,
cardiologues, etc.
Voilà. Et il se dit, bon, bah, ça va. Mais sauf que quand on prend un peu de temps, quand on accepte de rester plus de 5 minutes avec les personnes, on s'aperçoit que ça ne va pas. Et en plus, il y en a d'autres derrière qui vont vraiment pas bien.
Martine Brousse, est-ce qu'il y a le père Éric Denat qui a succédé comme curé de l'église Saint-Luc à Sainte-Foy-lès-Lyon, qui a écrit une tribune dans le journal La Croix, « La pédophilie ne pourra cesser l'omerta, oui ». Vous y croyez ou pas, Martine Brousse, aujourd'hui ? Est-ce que l'omerta peut cesser complètement ?
L'omerta ne cessera que si le monde des adultes se met au niveau de l'enfant. Et comme le disait Isabelle, si on accueille cette parole de l'enfant, ces révélations de l'enfant, mais comme ça a été redit, c'est insoutenable, c'est indisible, c'est pas possible, il faut qu'on dépasse ça. Et dans toutes les affaires que nous avons, dans l'enseignement, dans l'église et autres, c'est ça. Cette parole des enfants, c'est pas possible qu'il ait touché. Il était si bien, moi je me trouve, souviens de ce maire à Chablis, hein, il était si bien, il faisait la chorale, il les emmenait à la pêche, etc. Ce sont des hommes si bien, mais méfions-nous parfois des hommes si bien quand des enfants envoient des signaux, vous disent... Et je veux plus y aller. Posons-nous des questions. Et pourquoi pas prendre aussi le temps de croire ces enfants ? Et puis je crois aussi qu'il est important de se dire que l'omerta, c'est à nous, hein, de rompre cette omerta, hein, et de ne pas avoir peur, même si on ne veut pas que notre nom soit donné. Il y a des numéros verts aujourd'hui, le 119. On peut appeler et témoigner en disant voilà ce que j'ai appris. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que vous pouvez faire ? Aujourd'hui, nous avons tous les moyens pour protéger un enfant.
Ça veut dire ne pas se réfugier dans le silence organisé d'une institution, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, pas seulement une institution religieuse. C'est ce que vous voulez dire ?
Tout à fait.
Oui, parce qu'il y a de fait, il y a pas que l'Église. Hein. À partir du moment où il y a pouvoir et il y a enfant, eh ben, il y a un risque. Donc et en plus, toutes les institutions ont cette tendance à se protéger.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour parler d'un sujet difficile, la pédophilie, le silence qui entoure souvent ces agressions sexuelles, notamment dans des institutions qui cherchent à se protéger comme l'Église. Nous prenons une auditrice qui nous appelle de Berlin. Bonjour Catherine.
Bonjour madame.
Catherine, vous êtes française, vous vivez à Berlin, vous avez été victime d'agressions sexuelles lorsque vous aviez 5-6 ans, avez-vous dit au standard ?
Oui, mais pas par un prêtre, par quelqu'un de ma famille, par le mari de ma soeur aînée, qui n'était pas encore son mari, qui était son fiancé.
Oui.
À l'époque, on a découvert que ma mère était atteinte d'une leucémie, bon, c'est en 67, 68, 57, je ne sais pas exactement la date. Et bon, il s'avérait que le joli fiancé était un pédophile. Et quand j'ai voulu en parler à ma mère, il m'a dit que si je lui disais, elle mourrait. Elle est morte. Et bon, à la suite de la mort de ma mère, il est évident que tous mes comportements ont été mis sur le fait que ma mère était morte quand j'étais petite. Mm-hmm. Et puis bon, il y a une période où on a une amnésie. De toute façon, ça m'est revenu plus tard. Et je suis devenue folle. Je suis bipolaire et j'ai fait une... j'ai eu une crise terrible et c'est pratique parce que moi je suis pas quelqu'un de respectable dans ma famille. Et bon, depuis, il est mort.
Est-ce que votre famille est au courant, Catherine, de ce qui s'est passé dans votre vie?
Ma famille est au courant. J'en ai pas parlé pendant très longtemps.
Oui.
J'en ai d'abord parlé en allemand parce que je pouvais parler de ça en français. J'en ai parlé dans ma famille, mais il y a une négation. Allô?
Oui, oui, vous êtes bien en ligne, Catherine. Vous avez ressenti...
Pour ma sœur aînée, je suis un monstre. Je mets en péril.
Parce que vous avez parlé, c'est ça.
Enfant, je me suis tue parce que j'avais des neveux et nièces, j'ai été tante à l'âge de 7 ans, j'avais un sentiment qu'il fallait que je les protège. En vivant en Allemagne, l'Allemagne a tout à fait une autre approche de la pédophilie, où on voit un malade dans un pédophile avant de voir un criminel. Et j'ai lu, je me suis renseignée, et effectivement, je trouve que le côté psychopathe est beaucoup plus important que...
Mais la ligne se dégrade, Catherine, je suis désolée, mais merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous avez eu beaucoup de courage. Il faut rappeler à quel point c'est toujours très compliqué, très difficile pour les victimes de raconter cela. Et notamment sur le fait que quand les victimes parlent, finalement, il y a une culpabilité qui leur revient en boomerang, Isabelle de Gaulmin.
Oui, c'est là où le système est complètement pervers. Hein. C'est que, d'ailleurs, le pédophile le sait bien parce qu'il menace les victimes. Il dit attention, si tu parles, ça va être terrible. Donc, c'est notre secret. Voilà, c'est notre secret. Donc, si l'enfant brise le secret, il se sent coupable. Et c'est pour ça notamment qu'ils ont rien dit parce qu'ils avaient comme engagé leur parole auprès de ce prêtre.
Aujourd'hui, alors là, le témoignage de Catherine concerne une histoire qui s'est passée il y a plusieurs dizaines d'années. Est-ce qu'aujourd'hui encore des victimes, lorsqu'elles parlent, déclenchent une forme d'indifférence autour d'elles et donc une double peine dans ce
soit
silence? Est-ce que ça continue ça?
Oui, encore. Soit un tsunami. Parce que dans une famille où tout d'un coup on va révéler que le meilleur ami, prof de natation, prêtre, enseignant, a agressé son enfant, ou c'est un tsunami dans la famille, ou que tout d'un coup un père ou un compagnon a agressé, ou alors on va se taire. C'est fréquent et malheureusement il faut véritablement qu'on dépasse ça. J'aurais envie de dire aux parents: soyez attentifs au comportement de votre enfant, à ses paroles, au clignotant qui va vous envoyer. Soyez attentifs. S'il y a quelque chose qui change, posez-vous des questions. Et s'il vous dit des choses, croyez-le. Il faut croire les enfants sur ces questions.
Vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous donnons la parole à Michel Martzloff, le secrétaire général de l'association L'Enfant Bleu, à quelques jours de la Journée internationale des droits de l'enfant, parce que l'association publie un livre blanc avec 20 propositions pour renforcer, alors plus largement, la protection des enfants victimes de maltraitance.
Hey, petit bébé, il faudra se taire, ouais, même si papa frappe ta mère, il faudra s'y faire. Je sais qu'il fait mal, même quand il s'en va, mais c'est tout à fait normal. Normal car papa a les plus gros bras, et si monsieur louche sur toi, il faudra se taire pendant et après que monsieur te touchera. Chut, chut, il faudra se taire, c'est dur, ouais, mais il faudra s'y faire.
L'enfant d'eau, bébé dormira bientôt.
maman n'est pas mieux que papa, car maman aime voir d'autres monsieur. Et même si c'est bien fait pour papa, tu n'aimeras pas quand papa la tapera, elle criera ah ah ah.
Stromae qui évoque la pédophilie sur des notes de comptines revisitées dodo. Nous sommes en ligne avec vous, Michel Martzloff, bonjour.
Bonjour.
Alors nous parlions de la pédophilie, du silence et de l'Église. Vous êtes secrétaire général de l'association L'Enfant Bleu, et une association qui publie un livre blanc sur un problème plus général de maltraitance des enfants, avec 20 propositions pour renforcer la protection des enfants victimes de oui. maltraitance, alors que s'ouvre aujourd'hui en France un procès pour le meurtre de la petite Fiona, 5 ans, procès dans lequel vous êtes partie civile, avec d'ailleurs votre association Martine Brousse, la Voix de l'Enfant. Petite Fiona, 5 ans, sa mère et son beau-père sont accusés de graves maltraitances ayant conduit à sa mort. Il faut rappeler aussi les chiffres. 2 enfants meurent chaque jour en France sous les coups d'un adulte. Quelles sont, en quelques mots, nous arrivons au terme de cette émission, les principales propositions et recommandations de la part de votre association?
Alors, nous avons effectivement émis 20 propositions qui sont issues de l'expérience que nous avons dans le suivi des victimes que nous recevons à l'association, et également dans les procès en partie civile dans lesquels nous sommes présents, et nous sommes effectivement avec la Voix de l'Enfant, partie civile, pour l'affaire Fiona. Donc ces propositions, ce que je peux faire, c'est vous en donner 5 ou 6, en les illustrant avec des cas très précis, et vous verrez que le point de base qui soutient ces propositions, c'est de dire nous demandons l'harmonisation nationale des pratiques d'évaluation des familles, car aujourd'hui, les services sociaux des différents départements ont pratiquent leur propre méthode d'évaluation, et à chaque fois qu'on s'est trouvé dans un procès d'assises, une ou plusieurs des propositions dont je vais vous parler n'ont pas été appliquées et ont entraîné la mort d'un enfant.
Donnez-nous très rapidement 2 ou 3 propositions. Il nous reste vraiment très peu de temps, hein, Michel Martzloff.
Très vite fait. Alors, la première, c'est une enquête de voisinage systématique, parce que les voisins sont au courant mais n'osent pas parler parce qu'ils craignent les réactions des parents agresseurs. C'est le cas du petit Bastien qui est mort à 3 ans dans une machine à laver, dans lequel son père, Christophe Champenois, l'avait enfermé. Il n'y a pas eu d'enquête de voisinage. Nous demandons également des visites inopinées, la possibilité de se rendre sans prévenir dans une famille pour voir exactement ce qui se passe. Vous imaginez bien ce qui se passe lorsque on prévient la famille. Les enfants ne parlent pas et la maison est parfaitement rangée et parfaitement propre. Il y a de nombreux cas. Alors Bastien n'a pas fait l'objet de visites inopinées. Les services sociaux les suivaient pour carence éducative. Vous imaginez ce petit garçon qui était enfermé régulièrement dans un placard. Personne n'est au courant de cette situation. Nous demandons également un indicateur d'alerte lorsque les parents ne se rendent pas à la visite à laquelle ils sont convoqués à la maison départementale de l'enfance et de la famille, ou bien lorsque l'enfant n'est pas présent, lorsque les travailleurs sociaux se rendent dans la famille. Et nous disons, au bout de 2 absences ou 2 fois l'enfant n'est pas présent, nous demandons que le dossier soit transmis directement à la justice, au procureur de la République. Puis-je vous en dire d'autres ?
Oui, allez-y.
Alors, la parole de l'enfant. Souvent, la parole de l'enfant est recueillie par des gens qui n'ont pas les compétences pour la recueillir. Et nous demandons lorsqu'on recueille la parole d'un enfant, ce soit un psychologue spécialisé qui fasse ce travail de recueil de la parole. Un autre point important, et ça concerne le petit Julien, une affaire absolument épouvantable qui s'est passée à Nice, un petit garçon de 8 mois, qui a été assassiné suite à des coups répétés de son père. Un signalement, figurez-vous, avait été fait au procureur de la République de Nîmes et à celui d'Alès. Et rien n'a été fait dans les 10 jours qui ont suivi ce signalement par la gendarmerie, donc par des professionnels qui savaient exactement ce qu'ils étaient en train de faire. 10 jours après, comme l'enfant n'a pas été placé ni protégé, il est mort sous les coups de ses parents.
Merci beaucoup Michel Martzloff. Alors on peut découvrir la suite de ces propositions, 20 propositions dans ce livre blanc pour renforcer la protection des enfants victimes de maltraitance en allant notamment sur le site de l'association L'Enfant Bleu. Martine Brousse, je vous laisserai le mot de la fin. Que doit faire un adulte? Que devons-nous tous faire finalement lorsqu'un enfant raconte, dit qu'il est victime d'agression sexuelle ou de toute autre maltraitance aujourd'hui lorsque l'on est en France ou lorsqu'on est à l'étranger?
À la Voix de l'Enfant, nous partons du principe que l'enfant dit sa vérité, c'est sa souffrance, et que c'est aux adultes de voir s'il y a en effet des actes qui sont condamnables ou pas. Mais c'est sa souffrance, donc quoi qu'il arrive, cet enfant doit être entendu et pris en charge. Et puis par rapport à ce recueil de la parole de l'enfant, je crois qu'il est important qu'elle soit recueillie par une équipe pluridisciplinaire, que chacun joue bien son rôle, que la justice soit dans son rôle, que les enquêteurs, que les psychologues, mais en travail pluridisciplinaire et au travers des unités d'accueil médico-judiciaire, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de dérapages dans ces affaires et que, avant tout, c'est la souffrance de l'enfant qui est prise en compte.
Isabelle de Golemin, vous publiez « Histoire d'un silence, pédophilie à Lyon, une catholique raconte ». Il y aura bien un procès en cour d'assises pour juger le père Bernard Prénat. Est-ce que vous, en tant que catholique, vous avez peur ?
Peur ?
De ce procès de,
ah non, non, je de... pense que c'est bien. Non, il faut surtout pas avoir peur de la vérité. Je pense qu'il faut, au contraire, il faut souhaiter ce procès, il faut qu'on dise exactement où ont été les responsabilités pour pas recommencer, pour pas continuer, pour qu'on soit tous concernés. Au contraire, moi, j'attends ce procès avec hâte. Avec
mais de la violence des débats qui pourraient avoir lieu aussi, forcément.
Non, je trouve que mon livre a été super bien accueilli, ce qui prouve dans l'Église.
En tout cas, il faut le lire.
Des évêques et des prêtres m'ont écrit. Donc, je pense que l'Église, elle est mûre aujourd'hui.
Merci à vous, Isabelle de Golemin, Histoire d'un silence aux éditions du Seuil. Merci à vous, Martine Brousse. À demain.